Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Seydoudia, bonjour. Dernière minute, Afrique du Sud, le roi des Zoulous, Goodwill Zwelithini, est mort vendredi matin à l'âge de 72 ans, a annoncé son bureau après plusieurs semaines d'hospitalisation pour des complications liées initialement au diabète. Ici aux États-Unis, le président Joe Biden a vanté jeudi soir les progrès spectaculaires dans la vaccination anti-Covid qui permettent d'espérer l'amorce d'un retour à la normale ici aux États-Unis d'ici la fête nationale du 4 juillet. C'était à l'occasion de son premier discours à la nation depuis son accession à la Maison-Blanche le 20 janvier dernier. Nous y reviendrons avec Michel Joseph. L'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz et une dizaine de hautes personnalités ont été inculpés jeudi à Nouakchott pour corruption et placés sous contrôle judiciaire, a appris l'AFP de sources judiciaires et auprès de l'ancien chef d'État. Abdelrahman Dia nous donnera des détails. Au Mali, la défense et les parties civiles au procès du général Amadou Sanogo, procès pour assassinat, ont demandé jeudi la fin de cette procédure qui empoisonne le pouvoir. Le général Sanogo était le meneur d'un putsch en 2012 et a été brièvement chef de l'État. Bakassi Koura nous en parlera. En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune a convoqué jeudi des élections législatives anticipées le 12 juin, comme il l'avait promis, une tentative de reprendre la main face à la reprise du mouvement pro-démocratie du Irak dans la rue. Au Soudan, les autorités ont libéré le puissant chef de milice Janjaweed, Moussa Hilal, sanctionné par l'ONU pour des atrocités dans la région du Darfour, est détenu dans son pays depuis 2017, a indiqué jeudi à l'AFP un de ses conseillers. Le gouvernement de transition soudanais cherche actuellement à pacifier le Darfour à la suite d'un accord de paix en octobre avec des groupes rebelles visant à mettre fin à des décennies de conflits dans cette vaste région de l'ouest du pays. Le vétéran de l'opposition kényane et ancien premier ministre Raila Odinga, 76 ans, a été hospitalisé après avoir été testé positif au coronavirus, a annoncé jeudi son médecin dans un communiqué. Le Kenya, plus de 110 000 cas pour près de 1900 morts et qui connaît actuellement sa troisième vague de contamination, a commencé la semaine dernière sa campagne de vaccination contre le COVID-19. La Thaïlande a décidé de retarder le lancement de la campagne de vaccination avec l'AstraZeneca, a annoncé un responsable des autorités sanitaires vendredi, à raison de craintes liées à la formation de caillots de sang chez des personnes vaccinées. De leur côté, le Danemark, l'Islande et la Norvège ont suspendu les injections du vaccin AstraZeneca en raison des mêmes craintes et l'Italie a interdit l'utilisation d'un lot d'AstraZeneca. Mais l'Agence européenne des médicaments assure que le vaccin est sûr. Il n'y a actuellement aucune indication selon laquelle la vaccination a provoqué ces conditions qui ne sont pas répertoriées comme effets secondaires de ce vaccin. Le Parlement chinois a approuvé jeudi à la quasi-unanimité une réforme du système électoral à Hong Kong qui donnera au pouvoir un droit de veto sur les candidats de l'opposition militant pour la démocratie aux élections législatives. Les États-Unis ont condamné à ce sujet les attaques persistantes de la Chine contre les institutions démocratiques de Hong Kong et l'Union européenne a menacé Pékin de mesures supplémentaires. 9 manifestants ont été tués jeudi en Birmanie, où selon un expert de l'ONU, la junte commet probablement des crimes contre l'humanité, tandis que l'ancienne dirigeante Aung San Suu Kyi a été accusée par les militaires de corruption. Les États-Unis ont répété jeudi qu'ils excluaient des mesures unilatérales au bénéfice de l'Iran pour inciter Téhéran à prendre part à des discussions sur le retour des 10 pays dans le cadre de l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. suite de nos informations, le président américain Joe Biden s'est félicité jeudi soir des avancées spectaculaires dans la vaccination anti-Covid, des progrès qui permettent d'espérer l'amorce d'un retour à la normale aux États-Unis d'ici la fête nationale du 4 juillet, d'après M. Biden. Michel Joseph fait le point.
I'm announcing that I will direct all states, tribes and territories to make all adults, people 18 and over, eligible to be vaccinated no later than May 1.
Dans un discours à la tonalité tour à tour grave et optimiste, le président Joe Biden a ordonné à tous les États la levée progressive des restrictions d'âge afin que tous les Américains adultes soient éligibles au vaccin d'ici le 1er mai.
That's much earlier than expected.
C'est beaucoup plus tôt que prévu, a-t-il martelé.
By July the 4th, there's a good
Il a évoqué une trajectoire permettant d'avoir une bonne chance d'avoir un 4 juillet festif
and have a cookout or a barbecue and celebrate
où les Américains pourraient se réunir en petits groupes autour du traditionnel barbecue.
This fight is far from over, as I told the woman in Pennsylvania. I'll tell you the truth.
Ce combat est loin d'être terminé, a-t-il mis en garde, avant de dire sa conviction que de meilleurs jours étaient à venir.
In history, I believe we record. We faced and overcame one of the toughest and darkest periods.
Les États-Unis démontreront bientôt qu'ils ont vaincu l'une des périodes les plus sombres et les plus dures de leur histoire, a-t-il ajouté.
We've lost so much over the last year. We've lost family and friends.
Nous avons tous perdu quelque chose, a souligné le président américain, évoquant l'année écoulée. Ce sont les petites choses de la vie qui sont les plus importantes et ce sont celles qui nous manquent.
Vicious hate crimes against Asian Americans who've been attacked, harassed, blamed and scapegoated.
Joe Biden, qui a dénoncé les attaques inacceptables contre les Américains d'origine asiatique, a également annoncé le déploiement de 4000 soldats supplémentaires pour participer à la campagne de vaccination, portant leur nombre total à 6000.
Au Mali, reprise hier du procès du général Amadou Ayassanogo, meneur d'un putsch en 2012 et brièvement chef de l'État. La défense et les partis civils ont demandé la fin de la procédure. Les détails avec Bagassi Koura.
Attendu depuis des années, le procès s'est ouvert sous haute protection à Bamako avec possibilité d'un arrangement pour y mettre un terme. Les partis civils ont demandé au tribunal d'entériner un accord entre elles et l'État pour indemniser les familles des victimes. Les assises vont se prononcer lundi. Amadou Ayassanogo et 16 co-accusés, dont un ancien ministre de la Défense, ne sont pas jugés pour le coup d'État de 2012. Ils répondent de l'enlèvement et de l'assassinat de 21 membres d'une unité d'élite, les Bérets Rouges, retrouvés dans un charnier plus d'un an après le putsch qui avait renversé le président Amadou Toumani Touré. Un mois après le coup d'État conduit par Amadou Ayassanogo, les Bérets Rouges avaient tenté en vain un contre-putsch brutalement réprimé par les Bérets Verts, devenus les nouveaux maîtres de Bamako. Ce procès n'a cessé d'embarrasser le pouvoir, inquiet des dissensions qu'il pourrait susciter au sein d'une armée qui a renversé l'année dernière le président Ibrahim Boubacar Keïta. Ce procès s'est enlisé peu après son ouverture en 2016. En janvier 2020, la justice a ordonné la libération d'Amadou Ayassanogo et des autres militaires détenus depuis 6 ans.
L'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz et une dizaine de hautes personnalités ont été inculpés jeudi à Nouakchott pour corruption et placés sous contrôle judiciaire, a-t-on appris de sources judiciaires et auprès de l'ancien chef d'État. Le juge d'instruction a suivi les réquisitions d'Ahmedou Ould Abdellahi, le procureur de Nouakchott Abdelrahman Dia.
Le procureur Ahmedou Ould Abdellahi a demandé le placement sous un contrôle judiciaire poussé de M. Ould Abdelaziz, un de ses gendres, deux anciens premiers ministres et plusieurs anciens ministres et hommes d'affaires, a dit le parquet dans un communiqué. Après plus de 10 ans au pouvoir entre 2008 et 2019, ces réquisitions représentent une nouvelle étape de la chute de l'ancien président sous son successeur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, son ancien chef de cabinet et ministre dont il avait pourtant préparé l'accession à la présidence. Monsieur Ould Abdelaziz crie au règlement de compte. Son successeur invoque l'indépendance de la justice. Il s'agit de traîner tout un système et ses hommes devant la police et de suer leur honneur. C'est ému le collectif d'avocats qui le défend dans un communiqué. L'ancien président est soupçonné de corruption, blanchiment d'argent, d'enrichissement illicite et de dilapidation de biens publics, entre autres.
La Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
En République démocratique du Congo, la première unité de la Mutuelle financière des femmes africaines, ou MUFA, a été inaugurée lundi par le président Félix Tshisekedi. La MUFA offre des services de microfinance à des femmes à faible revenu et à celles qui opèrent dans le secteur informel des zones urbaines et périurbaines. Elle a conclu un partenariat avec Afriland First Bank, une banque panafricaine à capitaux camerounais. Malgré la hausse des cours du blé au Cameroun, le prix de la baguette de pain de 200 grammes est maintenu à 125 francs CFA sur toute l'étendue du territoire. Une décision prise par le ministre du Commerce, Luc Magloire Barga Atangana, au terme d'une concertation avec le groupement des industries meunières et les responsables du syndicat national des boulangers le 9 mars dernier. Ici aux États-Unis, le président Joe Biden a signé hier après-midi le gigantesque plan de relance de l'économie d'un montant de 1900 milliards de dollars depuis le bureau ovale de la Maison-Blanche. Des millions d'Américains toucheront des chèques d'aide directe pour un montant de quelques 400 milliards de dollars.
Les sports à présent avec Nani Talani.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous. Les équipes africaines de football se préparent pour les deux dernières journées destinées à boucler les éliminatoires de qualification à la CAN 2021 qui a été décalée d'un an et se tiendra en janvier 2022 au Cameroun. Deuxième de son groupe, le Congo-Brazzaville tentera de finir le travail contre le Sénégal déjà qualifié le 26 mars et contre la Guinée-Bissau le 30 mars. Dans la liste du sélectionneur Barthélémy Ngatsono, aux côtés de la star Thievi Bifouma, on retrouve une grosse surprise avec la présence de Delphine Dinga, qui a visiblement accepté de sortir de sa retraite internationale prononcée il y a 2 ans. Les Diables Rouges retentent aussi leur chance avec l'ancien gardien de l'Olympique de Marseille, Brice Samba. Si l'ancien international français accepte, il pourra croiser les binationaux Nolomb Mbemba, Morgan Poiti, Mons Bassoumina et Vimalin Tré, tous préconvoqués et dont on attend aussi la réponse. On note également les grands retours de l'ancien Djonnais Dylan Bahamboula et de l'ancien Lillois Kevin Koubemba. Seulement troisième de son groupe, la RDC jouera contre les Panthères du Gabon le 25 mars à Franceville et les Scorpions de la Gambie le 29 mars à domicile à Kinshasa. Dans la liste du sélectionneur des Léopards Christian Senghi, on remarque l'absence de Cédric Bakambu, récemment testé positif au Covid-19 et isolé en Chine. La RDC devra également composer son Yannick Bolassi, Neskis Kebano, Gaël Kakuta et Arthur Maswaku, tous deux blessés. On note par contre la présence de Dieu Merci Mbokani et du local Amédé Massassi. Meshak Elia a décliné l'offre. Recruté par Al Ahly en début d'année, Walter Boalia fête sa première convocation au sein d'un groupe où Mbemba, Tisseron, le Yindaman, Pekom, Poutoum, Poku et Mouleka feront figure de tête d'affiche. La Guinée, deuxième de son groupe derrière le Mali déjà qualifié, va boucler les éliminatoires contre les Aigles le 24 mars à domicile à Conakry et contre la Namibie le 28 mars à Windhoek. Dans sa liste, le sélectionneur Didier Six a choisi le milieu de terrain Naby Keïta ainsi que le binational Mohamed Bayo et le local Yakuba Gagnabari, tous deux convoqués pour la première fois. Mais on note l'absence de deux titulaires potentiels en défense centrale Florentin Pouba et Simon Fallet et de l'ex-capitaine Ibrahima Traoré. Le défenseur Mohamed Simakan de Strasbourg, blessé, est absent. La pépite du FC Barcelone, Ilex Moriba, n'a pas encore donné de réponse définitive. Enfin, il y a des habitués comme Issiaga Silla, Amadou Diawara, Madji Camara, François Kamano et le jeune défenseur stéphanois Saïdou Sow. On remarque aussi le retour du milieu offensif Morley Silla et du défenseur Mohamed Ali Camara, enfin débarrassé des blessures et qui a tout pour s'imposer comme un cadre.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Seguia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Qu'est-ce qui change après que Washington a placé sur la liste des organisations terroristes les rebelles des ADF en RDC, accusés d'avoir des liens avec le groupe djihadiste État islamique? Eli Sango a posé la question aux journalistes, chercheurs et écrivains qui suit depuis longtemps le groupe dans l'est de la RDC, Nikese Kibel-Beloka.
Les États-Unis viennent de nous rejoindre, ça nous fait du plaisir, ça nous fait de la joie, du fait que nos enquêtes ont été reconnues pratiquement, mais aussi ça donne une autre dimension pour la compréhension de l'identification de l'ennemi.
Mais qu'est-ce qui va changer si les États-Unis aujourd'hui reconnaissent que c'est un groupe islamique dans tout cela?
Avec la compréhension de l'identité des ennemis, on pourrait pratiquement trouver des moyens pour accompagner les FRDC. Les États-Unis peuvent par exemple faire impliquer AFRICOM pour accompagner les FRDC dans les renseignements, dans les équipements, parce que les États-Unis ont une expérience dans la lutte contre le terrorisme. C'est cet accompagnement-là notamment dans le renseignement et dans les équipements comme les drones ainsi de suite et dans la formation des unités spéciales que l'armée congolaise peut compter.
Vous suivez ces groupes depuis longtemps, vous êtes journaliste, écrivain, mais il semble bien que ces groupes a bien muté. On parle maintenant d'attaques au niveau des Kalemi, au niveau d'autres provinces où ces groupes n'étaient pas présents. Vous pensez que la tâche sera facile?
Le groupe a des ramifications et le groupe a des affiliations. D'abord, le plus grand épicentre, c'est au Mozambique. Il communique avec le Mozambique dans la province de Cabo Delgado, avec Al-Suna, qui signifie « ceux qui suivent les prophètes ». Mais il faut conjuguer les efforts d'abord des renseignements pour tous les pays qui sont concernés, parce que sans renseignement, on ne peut pas gagner cette bataille-là, cette nébuleuse. Donc, ce n'est pas facile, mais c'est un grand pas du fait que l'expérience américaine pourrait aider les FRDC, même les pays de la région, pour neutraliser ces groupes.
Mais déjà, des opérations d'envergure sont menées à l'est du Congo. Il y a l'armée congolaise, mais il y a aussi parfois des opérations conjointes avec les armées de pays voisins quand même. Malgré cela, ça ne porte pas de fruits.
Il y a eu un vrai problème dans ces opérations. Vous avez la MONUSCO, dont la mission des Nations Unies, qui ne reconnaît pas les caractères djihadistes de ce groupe. Vous avez les FRDC. Donc, ils ne parlaient pas le même langage et cela a perturbé. Il y a aussi une certaine opinion, notamment les notables de la région, qui mettaient les massacres sur le dos des FRDC. Cette avancée d'abord au niveau de l'identification de l'ennemi, cela, nous supposons aussi que va donner une autre impulsion à la MONUSCO, soit une nouvelle figure, un nouveau visage, parce qu'il y a une adéquation des troupes de la MONUSCO à l'heure actuelle pour lutter contre le terrorisme. C'est une inadéquation qui ne peut pas favoriser les combats. La reconnaissance de l'identité de l'ennemi va pousser et les Nations Unies et les États-Unis et notamment la République démocratique du Congo à signer des accords bilatéraux avec certaines puissances, certaines grandes puissances pour combattre effectivement efficacement cette nébuleuse. Il faut une grande diplomatie pour que les pays qui ont une expérience dans ce genre de combat puissent vraiment accompagner les FRDC.
Joint à Goma en RDC, Nikese Kibel-Beloka, chercheur, écrivain et éditeur du journal Les Coulisses.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Encore de nombreuses réactions suite au décès mercredi du premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko, déçu d'un cancer en Allemagne. Hospitalisé depuis le début du mois à l'hôpital américain de Paris, il avait été transféré dans un état grave dans une clinique en Allemagne le 6 mars. Il est mort à l'âge de 56 ans. Pour des réactions, notre correspondante Aïcha Diarra a tendu son micro à des Ivoiriens à Abidjan.
Sincèrement, vraiment, je suis dépassé. Je crois, actuellement, mais où est-ce, mais je ne crois pas.
Vraiment, ça m'a choqué. Depuis hier, quand j'ai appris ça, il n'y a pas plus d'homme. Ça m'a touché même, sincèrement dit. Ça m'a touché. Ah, vraiment, la vie est pas la vie.
Et là, je n'ai pas de mots à dire. Comme on a l'habitude de dire, les plus grandes douleurs sont Dieu. Aujourd'hui, c'est un grand froid dans le dos avec cette triste nouvelle. Parce que le premier ministre Ahmed Bakayoko était l'incarnation de la jeunesse. En lui, toute sa jeunesse se reconnaissait.
Bon, franchement, dit la mort d'Ahmed Bakayoko nous a profondément blessés. On ne s'attendait pas à ça. Il est vite parti pour la population.
Quand tu penses à tout le travail qu'il a fait pour nous, pour le pays, pour la nation, vraiment. En tout cas, on a les larmes aux yeux et son âme repose en paix.
La mort du premier ministre m'a vraiment choqué parce que c'était un homme généreux, bon, qui a rendu la population d'Abobo très heureux. On est vraiment triste.
On est très triste ce soir, hein, vraiment, parce que la Côte d'Ivoire vient de perdre un grand homme, un grand leader, un grand bâtisseur, un grand réunisseur. D'abord, à Boaké ici, les jeunes de Boaké commençaient à l'aimer déjà.
Ça m'a secoué un peu. Je n'ai même pas mangé hier de nuit. Tellement qu'elle était découragée. Était découragée. Trop, parce que mon signal est quoi.
Avec sa personnalité et tout ce qu'il a fait pour ce beau pays, que ce soit dans la crise post-électorale, jusqu'au jour d'aujourd'hui, pour qu'il s'en aille avec toutes ses valeurs, vraiment j'ai le cœur meurtri. Il a été toujours humble, avec l'oreille, l'écouteur, pour pouvoir aider beaucoup de démunis dans le silence. Mais s'il est parti, mettons tout dans la main de Dieu et n'accusons personne. Si Dieu pourra faire le pardon de quiconque. Mais ce qui est plus important, que sa famille soit forte, mais je le crains très 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 meurtri. Parce que je me dis que c'était l'un des icônes de la jeunesse qu'on pourrait mieux garder pour mieux sauvegarder la réconciliation nationale.
Moi, vraiment, dès quand j'ai pris les nouvelles, à 18 heures, il a coulé l'âme. Après, ado, c'est lui, moi, je voyais dans le pays-là. Il était aimé. Et puis, c'est un gars aussi, il connaît son travail très bien. Il ne parle pas en violence, il sait comprendre les gens. Donc, depuis la prise de fonction, c'est vrai, moi, il n'ai pas eu de problème dans Côte d'Ivoire. Bon, il ne voit pas de problème aussi dans Côte d'Ivoire. Grâce à lui, aujourd'hui, les jeunes, même, en s'attend très bien. Et lui, il a fait beaucoup de faveurs.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Sénégal, le président Macky Sall a décrété ce jeudi journée de deuil national en la mémoire des morts lors des manifestations suite à l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko. Des milliers de jeunes étaient en première ligne de ces manifestations. Disant comprendre la frustration de ces derniers, le président Sall a décidé d'une réorientation budgétaire de 350 milliards de francs CFA sur 3 ans pour le financement des jeunes. Les détails avec notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Toujours dans une logique d'apaisement, le président Macky Sall continue de poser des actes visant à montrer à la population qu'il comprend leur frustration, notamment celle relative au chômage et à la pauvreté. L'enveloppe de 350 milliards de financement sur 3 ans entre dans ce cadre. Une initiative appréciée par Abou, jeune Sénégalais au chômage.
J'ai entendu dire que le président de la République va décaisser 350 milliards de francs CFA pour les jeunes. Si vraiment il respecte son engagement, c'est une bonne initiative et il vient sonneur. Seulement, il nous a habitués à des promesses non tenues. Il faut que les structures et les ministères chargés de piloter ce projet jouent la carte de la transparence. C'est tout ce que nous demandons.
L'intensité des manifestations avec la présence massive des jeunes démontre que notre jeunesse a besoin d'être épaulée. C'est du moins l'avis de Moussa Diène, apprenti mécanicien.
Les manifestations sont un véritable indicateur. Les jeunes étaient au devant de la scène et cela démontre que la majorité d'entre eux sont au chômage et vivent dans la précarité. La preuve, ils volaient de la nourriture dans les supermarchés. Cette jeunesse mérite d'être encadrée. Quand on est jeune, laissé à soi-même, sans emploi, c'est une brèche pour verser dans la dérive et le banditisme.
Selon le président Macky Sall, ces ressources publiques seront réparties comme suit. 150 milliards pour l'année 2021, 100 milliards pour 2022 et 100 autres milliards pour 2023. Un projet ambitieux qui peut être vecteur de stabilité sociale, selon Seydina Omar Sey, docteur en économie.
Il faudra juste savoir que l'emploi des jeunes est aussi un enjeu de sécurité nationale. Parce que ça nous permet d'aller vers une société plus solidaire. Redonner confiance aux jeunes, c'est d'abord être capable vraiment de réduire de manière significative le chômage chronique des jeunes Sénégalais.
Pour régler l'épineux problème du chômage des jeunes, le président Macky Sall devra veiller à la création d'institutions fortes dédiées à l'entrepreneuriat, mais aussi convoquer des états généraux de l'emploi. C'est le point de vue du docteur Seydina Ousmane Sey, enseignant-chercheur.
Donc en termes de solutions d'urgence, si vous voulez, pour une politique de l'emploi plus efficace, il faut, à de pareilles situations, faire une convocation des états généraux de l'emploi. Afin que les propositions émanent de cette même jeunesse, mais surtout et fondamentalement aller également vers ce renouvellement des générations. On ne peut pas compter depuis les indépendances en maintenant, on ne donne pas l'opportunité, la chance aux jeunes. Essayons à ce que des jeunes, des intellectuels qu'il y aura dans ce pays, des gens qui sont très doués stratégiquement, ils vont donner des pistes de solutions pour les sorties de crise.
En plus des 350 milliards de financement, le président Macky Sall demande au gouvernement d'accélérer la réalisation des 45 centres départementaux de formation professionnelle et de 45 maisons de la jeunesse et de la citoyenneté. Le chef de l'État a aussi annoncé qu'il recevra des représentants d'organisations de jeunes et de mouvements de jeunesse en vue de la tenue du premier Conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes qui aura lieu au plus tard le 10 avril 2021. Seydina Abagué à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken va rencontrer la semaine prochaine des diplomates chinois de haut rang, plusieurs sujets qui préoccupent les États-Unis. Ce sera la première rencontre officielle de responsables de l'administration Biden avec de hauts responsables chinois. Les contentieux sont nombreux. Un reportage de la correspondante de la VOA au département d'État, Cindy Shane, repris ici par Lionel Gahima.
Le secrétaire d'État Anthony Blinken a présenté mercredi devant la Commission des affaires étrangères de la Chambre de représentants les principales priorités de l'administration Biden en matière de politique étrangère. Il a annoncé qu'il va rencontrer pour la première fois des hauts diplomates chinois la semaine prochaine en Alaska au retour d'un voyage au Japon et en Corée du Sud. Cela a bien suscité un certain nombre de questions de la part des législateurs. Monsieur Blinken a tenté de les rassurer, disant qu'il va soulever une foule de préoccupations américaines et que pour le moment, il s'agissait d'une réunion formelle et ponctuelle.
À ce stade, il n'y a aucune intention pour une série de discussions suivies. Ces engagements, s'ils doivent suivre, doivent vraiment être basés sur la proposition que nous constatons des progrès et résultats tangibles sur les questions qui nous préoccupent avec la Chine.
Il a convenu, avec un certain nombre de législateurs de deux partis, que la répression par la Chine des Ouïghours musulmans et d'autres minorités dans la région du Xinjiang équivaut à un génocide. Il a appelé Pékin à donner accès à la communauté internationale et aux Nations Unies. Anthony Blinken, secrétaire d'État.
If they have nothing to hide,
s'ils n'ont rien à cacher, qu'ils nous le montrent, qu'ils le montrent au monde. So we'll be calling for that.
Plusieurs législateurs républicains ont posé des questions sur les migrants qui tentaient de traverser la frontière sud des États-Unis avec le Mexique et pourquoi l'administration Biden a annulé les accords d'asile signés par l'administration Trump avec des pays d'Amérique centrale. Michael McCaul, représentant républicain.
Nous avons vu un afflux massif de migrants traverser et provoquer une crise à notre frontière sud. Pourquoi le président a-t-il annulé ces accords soutenus par nos voisins du sud?
M. Blinken n'a pas répondu directement à cette question, mais a déclaré que le président Joe Biden était déterminé à ce que les États-Unis aient une frontière sûre, ordonnée et humaine avec le Mexique. Il a également été interrogé sur la crise humanitaire dans la région du Tigré, en Éthiopie, et a fermement condamné ce qu'il a appelé des actes de nettoyage ethnique dans cette région.
Le premier ministre Abiy Ahmed est un dirigeant qui inspire, qui a remporté le prix Nobel de la paix. Maintenant, il doit se mobiliser et s'assurer que ses propres habitants du Tigré bénéficient des protections dont ils ont besoin et qu'ils méritent.
Anthony Blinken a déclaré qu'il a téléphoné à plusieurs reprises le premier ministre Abiy et d'autres dirigeants de la région pour essayer de trouver un moyen de mettre fin à la violence contre les civils.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.